le micro du soir à Ichla RFI.
Bonsoir et bienvenue à l'émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, je reçois à nouveau Jonas Mercier, que nous avions déjà interviewé en mai 2001. Donc, il était temps de s'entretenir avec lui une nouvelle fois. Au Micro du Soir, nous aimons reprendre le lien avec les gens que nous avons déjà interrogés. Jonas Mercier vit à Luxembourg depuis novembre 2016 avec sa femme Michaela et leurs deux enfants, après avoir vécu de nombreuses années en Roumanie. Leur lien avec ce pays reste fort. Ils sont d'ailleurs toujours propriétaires d'une petite maison à Lunca-Garti, petit village situé près de Campulung, à une heure environ au nord de Pitești. Jonas Mercier a été pendant de nombreuses années correspondant pour plusieurs médias francophones depuis Bucarest. Il fut aussi un temps responsable de l'édition Bucarest du petit journal .com. Pour les habitués du monde de la presse francophone à Bucarest, en Roumanie, je suppose que son nom vous est familier. Aujourd'hui, nous allons parler de son actualité, mais également de son... Alors, je ne sais pas si on peut l'appeler nouveau pays d'adoption, il nous le dira, le Luxembourg. Sa vision de ce pays et aussi de l'Europe, de façon générale, est intéressante. Nous allons donc parler de sa nouvelle vie, qui n'est plus tout à fait nouvelle maintenant, et d'autres choses. On va aller un petit peu plus... pas dans le détail nécessairement, mais on va parler de sujets larges, vastes, de modernité également, parce que le Luxembourg, comme il me l'a dit Jonas en préparant cet entretien, est particulièrement doué, entre guillemets, en termes de modernité. Il nous en dira davantage. Jonas Mercier, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, je suis ravi, on se connaît évidemment depuis de nombreuses années, et je suis ravi de vous avoir à nouveau au micro du soir. Alors, tout simplement, première question, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui à Luxembourg ?
Alors aujourd'hui, je suis en télétravail, comme vous pouvez le voir derrière moi. On a deux jours de télétravail au Luxembourg, c'est assez pratique. J'en profite au maximum. Et je suis dans mon salon, dans un appartement dans lequel on a aménagé il y a 6 mois, un peu plus de 6 mois. Et si je dis ça, c'est parce que j'ai une grande baie vitrée sur le côté et vue sur un champ agricole, pas cultivé mais labouré. Et derrière, on a des forêts, des collines, c'est assez vallonné. Donc c'est à Luxembourg-Ville, dans la ville, mais c'est vraiment le dernier immeuble avant la campagne.
Vous êtes dans le centre ?
Dans le centre, c'est une petite ville, donc on n'est jamais trop loin du centre. Mais on a cette grande baie vitrée qui nous apporte de la lumière. Et comme il y a très peu de soleil au Luxembourg, c'est toujours très agréable d'avoir cette lumière. Et chaque rayon du soleil compte.
Alors dites-nous, qu'est-ce que vous y faites à Luxembourg ? Quel est votre travail aujourd'hui ?
Alors ça fait 8 ans, vous parliez du pays d'adoption presque, parce que ça fait pratiquement autant de temps que je vis au Luxembourg que j'ai vécu en Roumanie, 10 ans. Et j'ai commencé en tant que journaliste pour un média financier économique qui s'appelle Paper Jam, où j'ai travaillé 2 ans, et depuis 5 ans, ou 6 ans maintenant, je suis responsable de Startup Luxembourg, qui est un peu la French Tech à la luxembourgeoise. C'est la marque nationale par laquelle on promeut le Luxembourg comme hub technologique et startup à l'étranger, et qui au niveau local essaie aussi de connecter toutes ces startups dont le nombre est grandissant avec l'économie un petit peu traditionnelle, pour encourager toutes ces PME, il y en a beaucoup au Luxembourg, de se digitaliser et de se moderniser.
Et c'est une structure c'est une structure gouvernementale ou privée ?
Oui, ça fait partie de l'Agence nationale d'innovation. Comme dans à peu près tous les pays d'Europe, on a déjà des agences d'innovation qui ont été créées plus ou moins dans les années 80. C'est à cette époque que l'Europe commençait à offrir des financements liés à l'innovation et avait besoin un petit peu de relais nationaux qui informent et qui aident les entreprises à accéder à ces fonds pour l'innovation. Donc c'est une agence qui existe depuis 1984 et aujourd'hui elle n'est pas publique, elle est nationale, parce que même si la majorité de son financement vient du ministère de l'économie, on a aussi des acteurs du monde privé, la chambre de commerce, les représentants de l'industrie locale et la chambre des métiers.
Et vous, votre rôle, quel est-il exactement?
Donc, c'est vraiment de construire et d'animer cette marque nationale, de représenter le Luxembourg à l'étranger, de lier des connexions avec les autres acteurs start-up et acteurs à peu près identiques dans les autres pays, et d'en faire bénéficier de toute cette visibilité qu'on a à l'étranger, d'en faire bénéficier des acteurs locaux, que ce soit des incubateurs pour les start-up ou les start-up elles-mêmes.
On va en parler un petit peu de cette numérisation très poussée à Luxembourg. Mais avant cela, j'aimerais tout simplement que vous me, si vous pouviez me dire ce que vous aimez et ce que vous aimez moins à Luxembourg.
Alors, Luxembourg, c'est vraiment un pays très attachant. C'est un petit pays provincial, je dirais, mais plutôt dans le bon sens du terme. La ville, Luxembourg-ville, qui est une des trois capitales européennes quand même, ne compte que 136 000, 140 000 habitants. Donc c'est tout petit et les choses sont assez faciles à faire. Tout fonctionne plutôt très bien et c'est une grosse différence par rapport à ce qu'on était habitué en Roumanie. Il y a un service public aussi qui est très
performant.
Très présent et performant. Il y a beaucoup de choses pour les enfants, pour les familles, notamment c'est surtout là que le Luxembourg est attractif pour les familles. Et puis c'est un pays où on gagne plutôt bien sa vie et ça c'est aussi assez reposant. Moi j'étais indépendant, un freelance en Roumanie.
C'est cher aussi, non?
Alors c'est très cher, mais les salaires sont quand même assez élevés. Donc, bon an, mal an, c'est le niveau de vie est quand même bien supérieur à celui de la Roumanie. Et puis, on a beaucoup d'aide sociale également.
D'accord. Donc, c'est un petit peu un endroit idéal?
Idéal, je sais pas. Parce que on cherchait un petit peu ça en sortant de Roumanie. On avait eu notre premier enfant et c'est vrai qu'on voulait un petit peu plus de stabilité et puis des services publics, notamment au niveau de l'éducation et de la santé qui sont un peu plus au point. Et c'est ce qu'on a trouvé, mais c'est vrai que la Roumanie nous manque beaucoup, parce que c'est un pays où il y a beaucoup d'étrangers qui viennent comme nous travailler. 50% de la population est étrangère au Luxembourg, qui vit au Luxembourg. Et dans la capitale, c'est 70%. Mmh. Donc c'est énorme, c'est des gens qui viennent de toute l'Europe, qui viennent d'Asie, qui viennent des États-Unis. Donc ça, c'est très agréable, ce melting pot, parce qu'on parle plusieurs langues, culturellement, c'est très très enrichissant. Et en même temps, c'est des gens qui ne sont pas d'ici et qui resteront pas toute leur vie ici, généralement. Donc on peut créer des liens, mais c'est jamais des liens très forts. Il faut dire aussi qu'on gagne bien sa vie, mais on travaille quand même beaucoup au Luxembourg. Et enfin, tout ce qui est luxembourgeois, c'est des gens ouverts et qui parlent vraiment beaucoup de langues, mais qui c'est une communauté un petit peu difficile à pénétrer. Du coup, on peut se sentir seul, on peut être rapidement devant cette question du cercle social qui est quand même très important. Et en Roumanie, c'est vrai qu'on sentait cette chaleur humaine, cette facilité d'interaction vraie et sincère et beaucoup plus rapide. Moi, ma femme est roumaine, donc forcément, on avait aussi des liens familiaux et puis beaucoup d'amis sur place. Mais ça nous a été très dur de construire un réseau social. Et aujourd'hui encore, même après 8 ans. Ça compte beaucoup plus que ce qu'on croyait dans le plaisir de la vie de tous les jours. Et je dirais que c'est un pays qui est très bien, mais il y a cette question, on en parle avec des expatriés, hein, qui est quand même très présente chez les gens étrangers qui viennent vivre au Luxembourg. Et l'appel du retour dans son pays d'origine, parce que difficulté de créer un cercle social solide, est très important.
Alors, quel est votre... Et ça suit ce que vous êtes en train de dire. Donc, le fait d'être dans ce lieu protégé, agréable, avec une vie sociale un petit peu difficile, mais mais un lieu protégé. Comment vous vivez les tensions, je ne vais pas énumérer, en Europe et ailleurs, je pense à voilà, la crise économique en Allemagne, enfin crise économique, de vraies préoccupations en Allemagne et pas qu'en Allemagne d'ailleurs, il y a de vraies préoccupations en termes d'économie en Europe, en termes de géopolitique évidemment, la guerre en Ukraine, etc. Vous, en vivant dans ce lieu où on se sent, d'après ce que vous dites, très protégé, comment vous regardez tout ça? Vous vous dites, bon, ben, de toute façon, nous, on est à Luxembourg, donc au Luxembourg, et je dis au Luxembourg et à Luxembourg, hein, vu que vous êtes à la ville de... Vous vivez à la ville de Luxembourg, dans la ville de Luxembourg. Comment vous vivez ça? Comment vous ressentez ça? C'est quel sentiment qui se dégage?
Je dirais qu'il y en a deux, parce que c'est vrai que c'est un petit peu une zone qui a l'air hors de cette réalité européenne qu'on voit évoluer dans les grands pays de l'Ouest comme à l'Est, d'ailleurs. Et toutes ces tensions énormes qui semblent exploser dans nos pays limitrophes, en Roumanie et ailleurs, on les a pas au Luxembourg, premièrement. Il n'y a pas cette tension-là du tout au Luxembourg. Il n'y a pas de parti d'extrême droite, il n'y a pas de question... ou alors vraiment, vraiment mineur sur la présence des étrangers ou des choses comme ça. Donc on est vraiment sur des problématiques différentes. Et la question de la tension sociétale n'est pas du tout présente ici. Donc c'est assez rassurant et assez et très, très, très agréable. Quand on voit ce qui se passe autour, d'être dans une société paisible.
Oui, d'accord, protégé, oui.
Bah, ça, c'est d'un côté, on se sent protégé dans la vie de tous les jours. De l'autre, et c'est vraiment important d'insister là-dessus, Luxembourg, c'est un des fondateurs de l'Union européenne. C'est un pays qui est fondamentalement ancré dans l'Union européenne, fondamentalement européen, et on se sent vraiment appartenir à cette Europe. On n'est pas la Suisse ou la Norvège qui peuvent se dire on reste indépendant, autonome, peu importe ce qui se passe dans l'Union européenne. Donc, on voit que ça va mal dans l'Union européenne et on sait que on sait qu'on n'a pas de frontières autour du Luxembourg, tout est ouvert comme de partout dans l'espace Schengen.
Vous êtes dépendant aussi de l'Europe, donc ça doit vous toucher.
Dépendant, mais on sent que ces tensions, enfin on sent plutôt que ce qui arrivera à l'Union européenne, le Luxembourg ne pourra pas en être complètement extérieur et que ça viendra vers nous. Et on le sent venir. Encore une fois, on sent aucune pression au niveau national, mais cette pression d'extérieur, elle nous font peur parce qu'on sait qu'elles toucheront un jour ou l'autre, à un moment donné, que ce soit l'économie, la société, la politique luxembourgeoise.
Et dans les rues de Luxembourg, il y a pas de vagabonds, enfin il y a pas de sans domicile fixe, tout est
si
propre.
Alors c'est un pays qui a quand même des problématiques liées à la pauvreté qui sont pas du tout négligeables. On a depuis 8 ans, on a vu quand même une augmentation des violences à Luxembourg-Ville, notamment autour de la gare, dans certains quartiers et près du centre-ville, et des sans-domicile fixe et aussi de la consommation de drogue un petit peu. Donc ça se voit, c'est aussi pour ça que je dis que ce qui se passe dans les pays limitrophes, on sait qu'on va le ressentir à un moment donné. On a des gens qui viennent des pays limitrophes, qui viennent au Luxembourg pour plusieurs raisons, et ils sont de plus en plus nombreux. Donc cette violence, elle transpire aussi des deux côtés de la frontière. Il y a eu en 2020 l'annonce des transports publics gratuits au niveau national au Luxembourg. Donc tout est gratuit, qu'on prenne le train, le bus, le tram, peu importe, on n'a plus besoin d'acheter de tickets, ce qui est super agréable dans la vie de tous les jours, mais qui a aussi amené peut-être une certaine population à aussi utiliser les transports en commun et donc à faire venir, je dirais, parce que encore une fois, les vagabonds, les sans domicile fixe qu'on voit au Luxembourg, c'est beaucoup des étrangers, français par exemple, ou belges. Il y a des luxembourgeois, certes, mais il y a aussi des gens qui viennent des pays limitrophes.
Pour devenir résident du Luxembourg, en tant qu'Européen et non-Européen, comment ça se passe? Est-ce que, en tant qu'Européen déjà, est-ce que c'est relativement simple? Et est-ce que vous savez comment ça se passe en tant que non-Européen? Quelle est leur politique par rapport à ça?
Évidemment, c'est très simple. Il faut avoir un travail. On est résident automatiquement et trouver un logement, bien évidemment. Et puis, on peut aussi travailler au Luxembourg depuis les pays limitrophes. Il y a 200 000 quand même frontaliers qui font l'aller-retour tous les jours pour venir travailler. Donc, sur une population qui déjà a la moitié de ses résidents étrangers, on a encore 200 000 étrangers
qui viennent d'où principalement ?
D'abord France, après Belgique et ensuite Allemagne.
D'accord.
Et on est 600 000 dans le pays, 700 000. Donc 200 000 frontaliers plus la moitié d'étrangers, ça fait.
Et quand on n'est pas européen, il y a une politique d'intégration qui est relativement ouverte ou comment ça se passe ?
Oui, alors il y a surtout, on est en recherche comme dans tous les pays de talents et de main d'œuvre qualifiée, donc on essaie de faciliter au maximum la venue de cette main d'œuvre qualifiée sur base de l'emploi local. Et c'est assez facile. Je ne connais pas les détails de la politique d'immigration. Je sais que pour certains pays, ce sera un peu plus difficile. Mais encore une fois, on a moins de pression à ce niveau-là et peut-être de problèmes que les grands pays pour avoir une politique très, très, très regardante. Donc, c'est plutôt assez facile même pour les non-européens de venir ici.
En préparant cet entretien, et puis pas seulement en préparant cet entretien, quand nous avons l'occasion de discuter, on parle de sujets assez vastes, Jonas, vous et moi, et notamment le sujet de la modernité, de toute cette numérisation. Alors là, vous êtes, non seulement vous travaillez là-dedans, mais en plus vous êtes à Luxembourg et vous me disiez avant cet entretien que, alors là, pour le coup, on est dans le modèle un petit peu estonien, peut-être, d'une numérisation à outrance. Je ne sais pas si vous la qualifieriez comme ça. Et alors, voilà, d'abord, comment vous la qualifieriez, cette numérisation, enfin, cette modernité très, très technologie, très, très, très technologique, et comment au quotidien vous la vivez également?
Alors, on n'est pas au stade de l'Estonie, ils sont bien plus avancés, mais c'est quand même un modèle. Le gouvernement cherche à aller dans cette direction, à vraiment numériser beaucoup des services publics. Et puis, il y a aussi au niveau économique, où là, clairement, il y a 2 ans, le ministère de l'économie a sorti une stratégie nationale qui s'appelait la Data and Stratégie de...
Des données
Data and Digital Driven Economy. Donc, une économie qui est tirée par les données et le digital pour construire cette espèce d'environnement, que ce soit au niveau de l'infrastructure, au niveau du support de cybersécurité, de toutes les facilités pour encourager les entreprises à vraiment développer leurs services via le digital. Ça, c'est un programme clair du gouvernement. Et on peut le comprendre quand même parce qu'il ne faut pas oublier que le Luxembourg a certes une industrie qui est bien en place, mais qui est un peu fragile. Quasiment la moitié de son PIB est issue de l'industrie financière. Et du coup, il se sent un petit peu... Fragilisé, parce que s'il se passe quelque chose dans cette niche de la finance où il a une très grande expertise, alors c'est plus un paradis fiscal comme ça a pu l'être dans les années passées. Depuis la crise de 2008, les choses ont été quand même largement arrangées, mais il reste quand même une place financière très importante avec une grosse expertise et donc près de la moitié du PIB qui provient de cette industrie. Donc l'idée, c'est de pouvoir développer une économie plus diversifiée, mais en se différenciant un petit peu des pays limitrophes. Et donc cette capacité à offrir une infrastructure digitale est très importante et vraiment dans l'optique du gouvernement.
Et vous donc me disiez c'est vrai qu'au quotidien, ça a été, voilà, enfin, c'est, bon, comme ici à Bucarest, hein, tout le monde est sur son smartphone, évidemment, mais là, il y a vraiment une mainmise, vous diriez, de l'outil numérique sur le quotidien.
Oui, c'est vrai. Alors, il faut dire qu'il y a des choses qui marchent très bien grâce au digital ou grâce à cette digitalisation des services publics, parce qu'on a changé d'adresse il y a 6 mois. On a envoyé la nouvelle adresse à une administration qui est passé par toutes les administrations pour nous changer l'adresse. Donc pour nous, ça a été très rapide pour un changement très efficace. Et il y a d'autres services assez pertinents. Mais comme tout est lié au digital, et je crois que c'est peut-être aussi le cas dans les grandes villes, hein, on va sur sa banque en digital, c'est plus facile. Je sais pas, on réserve ses vacances en digital, on vérifie si un restaurant ou un magasin est ouvert en digital, on communique avec 1000 groupes WhatsApp, avec l'école, avec je sais pas les clubs sportifs des enfants et autres. Tout est digital, le travail est digital forcément. Quand on rentre à la maison, on paye nos factures en digital, on fait plein de choses et on est vite toujours sur son téléphone. Je lis beaucoup la presse, notamment Le Monde, je suis inscrit, je peux pas acheter Le Monde papier, en journal ici et puis ce serait déjà, il arriverait deux jours en retard. Donc je le lis beaucoup sur le digital. Donc finalement, on est sur le téléphone, l'ordinateur au travail, on en sort, on est encore sur le téléphone et puis on n'en sort jamais et tout est facile. Mais on est submergé par cette vie digitale qui est éprouvante. Qui est éprouvante et je pense que le débat, et j'y pensais en préparant aussi cette émission depuis qu'on a discuté un petit peu sur le sujet, que c'est pas forcément, je pense qu'il faut pas tomber dans le piège de dire qu'il faut plus de digital, il faut couper, il faut poser son téléphone. Oui, évidemment, il faut poser son téléphone, mais je pense que c'est plutôt... On a une vie digitale et faut vivre avec son temps et c'est comme ça. On a un pied dans le cyberespace parce que il y a énormément de choses qui se passent à travers ces câbles et ces données qui sont envoyées dans cet espace-là. Et comme on parle de gestion de la vie privée et de la vie personnelle, hein, pour pas faire des burn-out et pour garder les bonnes distances. Je pense qu'il faut maintenant considérer peut-être qu'on a trois vies, c'est une personnelle, une au travail et puis c'est une vie digitale et que c'est à nous aussi d'équilibrer cette vie digitale et de savoir se donner, de pas se laisser emporter en fait et de gérer nous-mêmes, nous-mêmes cette interaction qui nous facilite quand même beaucoup la vie hein, parce que quand même faire ses virements et payer ses factures, prendre ses rendez-vous via le téléphone sans avoir besoin de se déplacer, c'est quand même pas mal. Et en même temps, ça submerge si on n'arrive pas à avoir cette
Et vous en
cette
parlez,
hygiène peut-être digitale.
Vous en parlez avec, même si vous disiez que la vie sociale n'était pas simple à Luxembourg, je suppose que vous avez évidemment après 8 ans quelques amis, et vous en parlez de ça, et quel est leur témoignage ?
Oui, on en parle beaucoup, alors on ressent ces mêmes sentiments du côté de moi, principalement des expatriés, parce que encore une fois, on travaille beaucoup, on travaille 40 heures, donc par rapport à la France, c'est un peu plus. Mais surtout, on a beaucoup la gestion des enfants parce qu'on est généralement, on n'a pas la famille ici. Et toutes ces interactions qu'on a avec l'école, avec les groupes de sportifs et autres, font qu'on passe beaucoup de temps après le travail sur cette communication qui est encore une fois censée faciliter la vie à tout le monde, mais qui nous submerge. Et des fois, on loupe des messages, on loupe des choses parce que tout simplement, on n'a plus envie de retourner sur son téléphone après 18 heures pour encore vérifier les 1000 emails de l'école qu'on a reçus et autres. Donc ça, c'est quand même ressenti.
Donc c'est ressenti, mais il n'y a pas de... de réaction par rapport à ça. Vous me disiez également que vous êtes en lien, évidemment, avec... vous êtes près de la France et je suppose que vous connaissez des Français. Et là, ce qui vous marque, par contre, c'est que... En tout cas, c'est ce que vous me disiez. En France, il y a... Alors, la numérisation est forte, mais pas autant qu'à Luxembourg. Et vous me disiez qu'il y avait un rapport beaucoup plus... Et distancé par rapport aux outils technologiques, vous voyez une vraie différence, même culturelle, hein, entre le français et le luxembourgeois à ce niveau-là.
Oui, c'est ce que je ressentais en discutant avec des amis, qu'ils ont l'air beaucoup moins liés
des amis français,
à...
Donc. Oui.
Des amis français, oui. À ce rapport, notamment au téléphone, hein, parce que c'est... C'est cet objet-là qui nous lie tout le temps et un peu trop au monde digital. Et il le laisse beaucoup plus de côté. Alors, j'essaie de comprendre un petit peu, mais Nous, on a beaucoup d'applications, en fait, c'est ça, beaucoup d'applications pour vérifier les transports, mille choses. Et encore une fois, c'est hyper pratique quand on y pense et quand on les installe. Mais après, on a toujours tendance à se référer à une application. Ah, si on sortait, ah, bah, il faut voir les bus. Ah, il faut voir si c'est ouvert. Ah, bah, il faut réserver. Et ce
ça
rapport.
Ça conditionne un petit peu.
Ça conditionne un petit peu. Et ce rapport, en France, j'ai trouvé que il y avait une volonté, je sais pas si, je pense qu'elle est voulue de ouvertement se décrocher de ça et de s'obliger
en Allemagne également, je crois. Il y a un rapport assez distant par rapport aux outils numériques en Allemagne.
Peut-être. Je connais moins, mais peut-être. En tout cas, on sent que dans un petit pays comme le Luxembourg, il y a une accélération et une volonté de toujours être quand même dans cette.
Ça vient un peu du complexe du. Enfin, d'infériorité, non, enfin, c'est le complexe du petit pays, c'est un pays un peu de ça.
Je pense que oui. Je pense que oui, je pense qu'au niveau gouvernemental notamment, on a peur de se laisser distancer parce qu'on n'a pas trop de filets de protection, alors que des grosses économies comme la France et l'Allemagne font qu'on peut se permettre, et même dans la vie de tous les jours, d'être un petit peu différent, le monde ne s'écroulera pas autour de nous, alors qu'au Luxembourg, on risque plus de perdre des choses si on loupe un peu certains trains. Et le train de la modernité est quand même très important aujourd'hui. Donc, tout le travail de l'agence d'innovation pour laquelle je travaille, c'est d'encourager, de pousser les entreprises à se digitaliser. Pourquoi ? Parce que même si aujourd'hui elles ont beaucoup de travail, parce que l'économie est très dynamique et localement, je parle des artisans par exemple, ou des plus petites entreprises, on sait que les Français, les Belges, les Allemands peuvent venir aussi proposer leurs services, et si eux sont digitalisés et eux sont un peu moins chers, le tissu des PME locales peut s'écrouler rapidement. Donc il ne faut pas se reposer entre guillemets sur le laurier, mais il faut innover et il faut être performant et il faut être compétitif. Et donc on est toujours un peu dans une course. Dans une course contre la montre où il faut être toujours dans les premiers pays à implémenter ce genre de technologie ou ce genre de directive en général.
Qu'est-ce qui vous manque de la Roumanie ?
Ouais, très clairement, c'est la vie réelle.
La vie réelle.
Là-bas, c'est la vie réelle. Ici, on n'est pas dedans, on le sait, on sent que le. Ce trop d'argent, parce qu'on est dans une société quand même très riche, fait qu'on est trop bien loti et qu'on touche plus la vie réelle. Et cette vie réelle, doublement intéressante. Déjà, quand on voit surtout ce qui se passe à l'étranger et dans l'actualité en général, en tout cas, nous, on se sent un petit peu mal à l'aise d'être un petit peu trop protégé de ça et certains égards de profiter de quelque chose dont nos pays limitrophes et les gens qu'on a côtoyés avant ne bénéficient pas, que ce soit la Roumanie ou en France. On sait qu'il y a des situations qui peuvent être compliquées, même économiquement. Donc, c'est pas forcément un bon sentiment de se sentir protégé de tout. Et en tout cas pour nous. Et deuxièmement, la vie réelle, c'est important parce qu'on a cette vraie interaction humaine et réelle qui est indispensable à son bien-être et à son équilibre intérieur. Je pense que ici, quand il y a beaucoup d'argent, comme vous disiez, tout est cher. Et quand c'est cher, bah, c'est bien, on a l'argent, on paye. Mais quand on voit que c'est cher, on devient un petit peu aussi. On en veut pour son argent, donc on est moins tolérant. Donc les rapports qu'on a aux gens sont plus liés aux rapports économiques. Et donc c'est là où la cassure un peu sociale se fait ressentir. Et au bout d'un moment, c'est pas un sentiment très plaisant que d'interagir que sur des bases un petit peu économiques avec les gens qui nous entourent.
Mais vous avez l'air très très conscient de ce contexte-là. Donc quelque part, comme vous le disiez avec votre femme et vos enfants, dans quelques années, vous décidiez de partir de Luxembourg. Vous n'êtes pas trop inquiet du décalage, c'est-à-dire vous pensez que vous pourrez revenir vivre dans la vie réelle ?
Ben, c'est toujours une question, c'est sûr, on sait que c'est facile de s'upgrader, d'être un petit peu au-dessus en termes économiques de là où on se trouvait, mais l'inverse est toujours plus difficile. Mais non, je pense qu'on reçoit on ressent quand même un besoin profond de retrouver une interaction humaine avec les gens qui sont toujours plus naturels.
Donc c'est non pas un questionnement, mais c'est en tout cas un projet qui, je crois, depuis que vous êtes au Luxembourg, est là et continue d'être là, c'est-à-dire à un moment donné, peut-être partir en Roumanie, je ne sais pas, mais vivre ailleurs.
Oui.
Ça, c'est clair.
Oui, ça, c'est clair qu'on ne restera pas ici. Et un des facteurs clés, alors on s'était quand même posé la question à un moment donné, c'est que l'immobilier notamment est très très cher, donc c'est pour nous c'est impossible d'acheter un appartement ou une maison.
Même en ayant de bons salaires, c'est compliqué.
Ouais, c'est compliqué. Et du coup, on n'est pas prêt à rester dans un pays où on ne peut pas s'enraciner. Donc oui, c'est clair que nous, ce sera juste une étape de notre vie.
Et pour terminer, parlez-nous un petit peu de Lunkakarti, de votre petite maison que j'ai eu la chance de connaître, qui est vraiment adorable. Et je salue d'ailleurs l'un de nos amis en commun qui a également une maison par là-bas, Benjamin Ribou. Oui, parlez-nous de pourquoi vous aimez cet endroit. Et je crois que vous y allez chaque année, vous y ressourcez, vous louez la maison pendant l'année, mais une fois par an, vous y retournez et là, voilà, vous redevenez enfin propriétaire et vous redevenez enfin roumain.
Oui, c'est vraiment ça. C'est un endroit important pour nous parce qu'on a acheté cette maison juste avant d'avoir notre premier enfant et on a passé vraiment beaucoup de moments. C'est la campagne roumaine, je crois, hein. Et la campagne roumaine, c'est pas, on la trouve pas en France, on la trouve pas au Luxembourg. Elle est spéciale. Elle offre,
Pourquoi est-elle poillée? On dit oui, mais en quoi elle est particulière par rapport aux autres campagnes, la campagne roumaine?
Parce que elle est restée. Oui, complètement plus authentique. Il y a encore des gens de la campagne qui vivent à la campagne. En France, sûrement aussi, mais c'est vrai qu'en France et au Luxembourg, c'est des campagnes plus propres où il y a
plus aménagé.
Plus aménagé et il y a moins ces personnes qui font la couleur de la Roumanie aussi et qui sont profondément ancrées, profondément liées à la terre aussi. Je crois que ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on fait son jardin, on élève ses bêtes pour ça. Propre consommation et on le sent très clairement et donc ça fait du bien de retrouver déjà c'est de la lumière aussi. Alors encore une fois, ici on a très peu de soleil et quand on vient en Roumanie tout de suite le soleil offre un spectacle assez magnifique en début, en milieu, en fin de journée. Et puis on se sent bien et je crois que c'est difficile à exprimer, je crois, comme beaucoup d'étrangers qui vivent en Roumanie et qui aiment ce pays, mais il y a quelque chose qui fait qu'on se sent bien en Roumanie et qui est un peu particulier.
Donc, éventuellement, un retour définitif, c'est aussi dans les projets, un autre pays, mais aussi la Roumanie, pourquoi pas, revenir par ici.
Pourquoi pas ? Je suis pas sûr que ce sera la prochaine étape, mais je pense peut-être que ce sera l'étape d'après. Encore une fois, on est...
Et puis vous êtes jeune encore, ça va.
On est peut-être, ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, oui, on n'est pas fermé pour revenir en Roumanie. Et quand ce sera, on ne sait pas, peut-être un peu plus tard, mais en tout cas, c'est envisagé.
Bon. Eh bien, écoutez, Jonas, merci. Ça m'a fait très plaisir de vous avoir de nouveau au micro du soir après 4 ans. Merci pour avoir raconté ce qui vous est arrivé jusqu'à présent et comment est votre vision de là où vous vous trouvez, de l'Europe qui vous entoure et de ce lien que vous avez toujours gardé très fort avec la Roumanie. Merci infiniment.
Merci de m'avoir invité. Au plaisir pour revenir.
À bientôt, oui, à très bientôt, Jonas. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est tout pour ce soir. Je vous souhaite à l'avance Marty Shore Felicit, hein, parce que c'est demain, le 1er mars. Et personnellement, j'aime beaucoup le Marty Shore, je trouve que c'est une très belle fête. Donc n'oubliez pas vos Marty Shore, hein, pour demain, dès demain matin, ou dès ce soir peut-être. Voilà. C'est tout. Weekend Placote. Au revoir.
Le micro du soir, Aïchla RFI.